Humanitaire. Humanitaire, pour une bonne visibilité des actions d'aide et de protection des populations en Côte d'Ivoire sur Radio de la Paix. Présentation Sonia Nzian.
Bonjour à toutes et à tous. En Côte d'Ivoire, les accidents vasculaires cérébraux AVC représentent en moyenne 35% des hospitalisations dans les services de neurologie d'Abidjan. Des chiffres qui inquiètent plus d'un, alors permettez qu'aujourd'hui ce numéro d'Humanitaire soit spécialement axé sur les AVC, un mal pernicieux qui fait beaucoup de dégâts parmi les populations, selon les spécialistes. Le temps de cette émission donc, nous vous permettrons de toucher du doigt les réalités vécues par les personnes qui en ont été victimes. Et pour s'en faire le porte-parole, Niao Chantal. La quarantaine révolue, notre invitée a été victime d'AVC le 21 septembre 2009, son histoire.
Je suis un cadre supérieur dans une entreprise de la place. Un certain 21 septembre 2009, à la suite de fortes céphalées que je minimisais, je me retrouve avec un côté du corps paralysé. Je suis pas une hypertendue connue et ça a été brutal en fait. Ça a été une surcharge d'activité qui m'a donc provoqué ça. Évacué en l'hôpital, on me dit que j'ai fait ce qu'on appelle un AVC ischémique.
Avant de poursuivre, précisons que l'accident vasculaire ischémique dont a été victime Yao Chantal est provoqué, selon les spécialistes, par l'interruption de la circulation sanguine cérébrale dans le cerveau par un caillot. Elle n'a d'ailleurs pas été sans conséquences pour cette dernière.
Je me retrouve à une personne qui n'est pas moi en fait, parce que je suis quelqu'un de très dynamique, quelqu'un de très expansive et tout ça. Et puis je me retrouve dans un corps inconnu, c'est-à-dire que ce corps ne m'obéit plus, avec la bouche qui était totalement à l'ouest, incapable de faire quoi que ce soit par moi-même. Il fallait qu'on me soulève, qu'on me porte et tout ça. Et j'ai ma petite sœur qui a décidé de laisser toutes ses activités et qui était à mes côtés, qui vraiment me portait à la douche, me lavait, etc. Mais évidemment, les humeurs que ça change, elle a dû supporter tout ça. Et donc, j'ai dû apprendre à me réapproprier mon corps, à accepter mon corps. J'ai dû réapprendre à accepter ce nouveau moi que je suis avec le travail de psychologue. J'avais perdu l'usage de la parole. Et donc, j'ai dû, avec l'appui d'un orthophoniste, réapprendre à parler. C'est pour ça que vous voyez que j'ai un débit assez rapide. J'ai dû réapprendre à ramasser les morceaux de ma vie. J'ai vu le désespoir de mes parents. Mon père qui me regarde, sa fille est incontinente. On est obligé de lui mettre des couches. Sa fille qui ne pouvait plus rien faire par elle-même. J'ai vu mes parents désemparés. J'ai vu mon père pleurer. J'ai vu mon fiancé, dans son désespoir, il est parti. On vivait dans une maison ensemble, même le monsieur, il a changé. Donc, j'ai pris la décision de le libérer de sa promesse. Parce que tenez-vous bien, on avait déjà acheté ma robe de mariage, on avait déjà fait toutes les courses qu'il faut. Je devais me marier en décembre et je vous fais un AVC le 21 septembre 2009. Et donc, je le libère de sa promesse. Parce que en fait, je me suis très vite rendu compte que je ne pouvais pas me battre sur tous les tableaux. Je ne pouvais pas être dans un combat de survie. Et puis m'interroger sur est-ce que mon mariage aura lieu, est-ce qu'il va toujours m'aimer, est-ce qu'il n'aura pas de problème, je n'avais plus le temps pour ces questionnements. Donc j'ai fait le choix de m'amputer d'un bras et c'est comme ça qu'on s'est séparés. L'AVC c'est un drame, c'est un tsunami dans une vie.
Malgré toutes les difficultés, Niao Chantal décide de ne pas baisser les bras. D'ailleurs, ses proches l'y aident.
Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Dès que j'ai fait cet AVC, mon entreprise s'est mobilisée autour de moi. J'ai eu tous les soins qu'il faut. Vraiment, j'ai eu une famille biologique et professionnelle mobilisée. Et je suis restée à la maison pendant 3 ans où ma vie n'a été que rééducation, rééducation et rééducation. Et j'ai eu le privilège d'avoir un patron qui a été plus que merveilleux, qui m'a dit « Tant que vous êtes à la maison, vous serez payé. » Comme si vous étiez en activité. Il arrivait des moments où mon patron me donne un livre, puis me dit, bon, tu le lis, quand tu finis, tu m'en fais le résumé. Tout ça pour aider ma mémoire à revenir. Et ce monsieur, je lui rendais toujours un grand hommage, M. Zadi Eugène. À côté de lui, il y a un grand homme aussi à qui je rendrais un hommage, M. Marcel Zadi Kessi, qui était notre grand patron à nous tous. Et quand il vient à la maison, il va me dire, bon, je suis en train d'écrire tel livre. Je voudrais que tu me donnes ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, c'est comme ça que tout ce monde-là m'a aidé à travailler sur ma mémoire. Et tous les jours, j'avais quelque chose que quelqu'un me donnait pour lire. Parce que je suis passionné d'écriture. J'adore la belle littérature. Donc, j'ai eu une chaîne de solidarité. Toutes mes amies, chacune prend le temps de me raconter. Elles ont fait, j'ai envie de dire, un agenda quasiment où à tour de rôle, ça défilait chez moi. Et donc, j'ai eu toute cette chaîne de solidarité.
Même si elle est reconnaissante pour toute cette chaîne de solidarité, Niaou Chantal n'a qu'une obsession, redevenir autonome, mais surtout se sentir utile.
Et puis, j'ai poursuivi la rééducation. Après 3 ans, je me sentais humilié d'être obligé d'aller au distributeur prendre mon salaire pour un travail que je n'avais pas fait. Donc, j'ai dû faire asseoir mon patron pour dire, permets-moi de reprendre le boulot. Il m'a dit, non, tu n'es pas encore rétabli, tu ne marches pas. Avec les béquilles, c'est pas encore évident. J'ai dit, je pense que si je vais au bureau, ça va m'aider à accélérer ma guérison. Et mon patron m'a autorisé à donc reprendre le boulot. Moi, en général, je partais au bureau, je faisais rien. Je suis assise, les secrétaires vont faire les courriers, elles viennent me donner, je corrige. Mais mon travail, même, je ne le faisais pas. Mais ça me faisait du bien d'aller au travail. Mais il m'arrivait des moments où j'étais déprimée parce que soit je vais dans la salle d'eau, j'arrive pas à me rhabiller seule, je commence à pleurer. Et puis à un moment, toutes les assistantes ont fait une réunion et disent, bon, chaque fois que tu sors de la salle d'eau, tu pleures là. Bon, nous, on a décidé de faire un planning. Chacune va t'accompagner à tour de rôle dans la salle d'eau. Quand je suis sortie de là, que j'ai repris correctement le boulot, je n'ai pas oublié le chemin parcouru. Je sais que quand on a fait un AVC, on est désemparé, on ne sait plus quoi faire, on a des problèmes de mémoire, on a des séquelles qui sont très lourdes, aussi bien pour la famille que pour soi-même.
Alors, vous décidez donc de vous mettre au service des autres?
J'aime aider les autres. J'aime que les gens qui sont autour de moi soient bien. Quand on va dans les centres de kinésithérapie, mais je suis vraiment à l'écoute de tous ceux qui sont dans les centres de kinésie. Et donc, c'est comme ça que l'idée de l'ONG est arrivée.
L'ONG, soit dit
AVC,
en passant.
AVC Espoir. Mmh. Alors, donc, l'idée de AVC Espoir, c'est d'apporter de l'espoir là où l'AVC a tenté de détruire l'espoir.
Alors, concrètement sur le terrain, est-ce que vous pouvez expliquer votre engagement?
Concrètement sur le terrain, en tant que présidente, moi, je vais visiter des malades. Je vais leur expliquer les étapes par lesquelles ils vont passer. Quand vous avez fait un AVC que la famille m'a appelé, je vais d'abord rencontrer la famille pour leur expliquer l'AVC là. C'est quoi dans la vie de l'individu? Moi, j'ai rencontré parfois des familles où l'épouse était prête à quitter son mari parce que depuis qu'il a fait AVC, il est devenu irascible, il est devenu difficile à vivre. Elle me disait que les gens lui ont dit que son mari prend plaisir à la voir nettoyer ses selles, laver ses habits dans lesquels il a fait les urines et tout ça. Je lui ai dit, mais est-ce que votre époux, avant la maladie, était comme ça? Elle me dit non. J'ai dit, ben, tu vois que lui, il est plus humilié que toi de faire les selles sur lui. C'est un adulte. Aucun adulte n'a envie de faire les selles sur lui. C'est la maladie qui fait qu'il fait les selles sur lui. Elle me dit, ah madame, non, il fait exprès. Parce que souvent, il est en train de discuter avec moi et puis il fait les selles sur lui. Je lui ai dit non. C'est quand ça commence à sentir, quand vous êtes gêné, lui aussi il est gêné. Et il se rend compte qu'en fait, c'est lui qui l'a fait. Mais son cerveau ne dit plus au reste de son corps qu'il doit aller à la scène. Il est en train de discuter, mais le business sort. Et puis, il me dit, ah, je suis désolé, j'ai encore fait. J'ai dit à cette épouse, voilà comment je vais t'aider. Il faut juste noter, depuis hier, quelle est la fréquence à laquelle il fait? Elle dit, en général, c'est tous les 2 heures. J'ai dit, d'accord. Si c'est tous les 2 heures, on peut le régler. Donne-moi ton portable. Je prends son portable et puis je programme. J'ai dit, n'importe quoi. S'il a fait à 8 heures, ça veut dire qu'à 10 heures, on aura un prochain. Donc, je vais à 10 heures moins le quart. J'ai dit, bon, votre portable va sonner. Quand il sonne, c'est pour dire qu'il faut aller le déposer dans la salle d'eau. Et puis, j'ai dit au monsieur, quand elle vous dépose dans la salle d'eau, tu fais ta petite affaire, ta main valide, tu te nettoies, tu tires la chasse d'eau. Et puis tu prends ta canne, tu tapes à la porte, ils vont venir te faire sortir. Donc ça veut dire que sa dépendance va prendre fin. Et donc, la dame, dès qu'elle a commencé à mettre ça en place, mais c'est une femme que vous ne reconnaissez plus. En tant qu'humanitaire, c'est ma joie, c'est mon... Je veux dire, j'ai tout gagné. Un malade qui retrouve la joie de vivre, franchement, ça n'a pas de prix pour moi. Quand ce père de famille qui hier, en fauteuil roulant parce qu'il estime qu'il a tout perdu, il a envie de se suicider, et puis... Finalement, avec nous, notre accompagnement, il devient le répétiteur de ses enfants. Bien qu'en fauteuil roulant, parce qu'on lui explique, en fauteuil roulant, tu peux faire de l'accompagnement de tes enfants. Pour moi, ça, ce sont des pépites. Ma joie est parfaite. Parce que ça, vous avez réussi à ressouder une famille, un monsieur qui était prêt à se suicider, qui, parce que vous l'avez rencontré aujourd'hui, il ne veut plus mourir, mais vous avez tout gagné. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix.
Des histoires de ce genre, Niao Chantal nous apprend qu'elle en a plein le sac. Son leitmotiv, aider via son ONG le maximum de personnes ayant été victimes d'AVC à reprendre goût à la vie malgré les séquelles.
Mon combat, c'est d'abord apporter un accompagnement aux victimes d'AVC et leurs familles, conseils et assistance pour aider les victimes d'AVC à retrouver leur autonomie et leur dignité. Faciliter le suivi du malade même dans son environnement social et familial. Aider le malade à rencontrer les meilleurs spécialistes pour améliorer sa qualité de vie. Aider les familles à comprendre ce que traverse le malade et eux-mêmes leur donner les clés pour mieux aider le malade. Et puis aider même les gens qui aident le malade parce que, je vous avoue, ce n'est pas une maladie aisée. Vous ne dormez pas. Le malade, toute la nuit, a besoin de se retourner au moins une cinquantaine de fois. Parce que nous, vous savez, le bras qui est invalide, c'est comme si vous avez un sac de 10 kilos sur un côté de votre corps. Et donc, souvent, quand moi, je vais dans les familles, je vais même mettre des sacs de riz. Pour demander à l'aidant, il faut soulever le sac. Quand il soulève, il dit, ah oui, j'ai dit, ça, c'est le poids que pèse le bras qui est invalide de votre parent. Donc, quand il est penché, c'est ça qui explique ça. Donc, mon combat, c'est m'assurer qu'effectivement, le malade de retour dans cette autonomie dont on a parlé. Et puis, à côté des malades, c'est aider les bien portants à ne pas venir grossir les rangs de nous, les victimes d'AVC. Donc, faire de la prévention. La prévention pour nous, c'est quoi? C'est entre autres connaître les signes d'alerte. Vous avez une déformation de la bouche. Vous voulez attraper votre verre d'eau, il vous tombe des mains. Vous voulez vous lever, le pied, il est flageolant. Vous vous écroulez. Vous avez un trouble de la parole. C'est un signe d'alerte. Votre vue se brouille. Il faut chercher à voir un médecin. Faire de la prévention aussi auprès des malades parce que en Afrique, malheureusement, les victimes d'AVC vous diront, j'ai déjà fait la maladie, donc je ne risque rien. En fait, c'est faux. Nous sensibilisons aussi les malades sur les risques de récidive. Parce que quand vous avez été victime d'un AVC, vous êtes plus susceptible de faire un autre AVC et celui-là va être plus grave que le premier. Et donc, on est un peu comme un volcan endormi. À tout moment, on peut faire une récidive. Donc, on doit être les gardiens de nos émotions.
Quand vous dites gardien de nos émotions, ça veut dire quoi?
Ne pas s'énerver à tort et à travers. Être capable de se maîtriser. Moi, j'entends des pères de famille souvent qui me disent, moi dans moi avant, lui là, mettons avant là, il est mort, hein, frère. Moi dans moi avant, celui-là, il ne peut pas me dire ça. Et pour ça, il va s'énerver, mais pas possible. C'est en ce moment-là que vous lui expliquez que tu t'énerves trop, tu risques de faire un autre AVC. Et le deuxième, ça peut être fatal. Parce qu'il va être plus grave que le précédent. Et donc, si tu as envie de passer du temps à côté de ta famille, il faut que tu sois le gardien de tes émotions. Moi, personnellement, je ne fréquente plus toute personne qui potentiellement peut m'énerver. Si vous êtes négatif, je ne vous fréquenterai pas. Ça, c'est un choix de vie. Je suis même à une réunion, quand vous dites des choses qui pourraient, par exemple, me choquer ou qui pourraient m'énerver, je me coupe de cet extérieur-là. Donc, on développe sans faire exprès des automatismes qui font qu'on s'extériorise de tout ce qui potentiellement peut nous affecter. Et il faut que chaque personne soit capable de faire ça.
C'est un peu des mécanismes de survie?
C'est des mécanismes de survie, parce que c'est ça ou bien vous mourrez.
On va terminer par un appel à lancer aux populations.
Notre ennemi commun, c'est le stress, les colères, les émotions que nous avons du mal à juguler. C'est ce qui nous donne des AVC. Notre mode de vie, notre alimentation, les facteurs de risque. Quand vous êtes un diabétique, parce que vous vous sentez mieux, vous arrêtez de suivre votre traitement. Quand vous êtes un hypertendu, que vous arrêtez votre traitement sans l'avis de votre médecin, parce que vous vous sentez mieux, c'est tout ça qui nous fait aboutir à des AVC. Je ne veux pas de nouveaux cas d'AVC en Côte d'Ivoire. Et pour que ça n'arrive pas, il faut que vous fassiez attention aux signes d'alerte de l'AVC. Vous avez une déformation de la bouche le matin ou dans le courant de la journée. Vous avez l'impression que votre bouche est un peu penchée. Il faut y faire attention. Cherchez à rencontrer un médecin. Vous avez une faiblesse au niveau du membre. Vous voulez saisir quelque chose avec le bras. Le pied se dérobe sous vous. Il faut chercher à rencontrer un médecin. Vous avez un trouble de la parole. Vous avez du mal à un moment de la journée d'articuler. Il faut chercher à rencontrer un médecin. Un trouble de la vision. Rencontrer un médecin. Parce que le paradoxe des signes de l'AVC, c'est que vous pouvez avoir tous ces signes et puis dans la journée, ça disparaît. Or, le temps d'intervention pour vous rattraper, pour que vous ne gardiez pas de séquelles, les médecins ont besoin de 4 heures. Si vous venez entre la première heure où le signe est sorti, que vous dépassez 4 heures, vous allez garder des séquelles, avoir une démarche claudinante comme Mme Niaou. Il vaut mieux ne pas avoir autant de séquelles que nous. Donc, c'est juste ce que je voudrais dire pour lancer cet appel-là.
Pour terminer son propos, Niao Chantal invite à se mettre au service des autres.
Il faut qu'on accepte de s'investir dans les causes humanitaires. Quand vous donnez, vous recevez toujours. J'ai été victime d'un AVC, mais je veux dire, Dieu m'a fait la grâce. Aujourd'hui, j'ai eu un enfant, je me suis mariée, Et j'avoue qu'aujourd'hui, je suis une épouse et une mère comblée. Et donc, je vous exhorte à vraiment vous engager dans les causes humanitaires. Et c'est gratifiant.
C'est gratifiant pour Niao Chantal de sensibiliser sur les AVC qui, en Côte d'Ivoire, représentent le premier motif d'admission en médecine interne. Ayant été victime de AVC le 21 septembre 2009, alors âgée de 35 ans, elle a accepté de nous raconter son combat au quotidien face aux séquelles de la maladie. Espérons, amis auditeurs, que vous avez tiré le maximum d'informations utiles sur cette maladie. Sur ce, merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous la semaine prochaine pour d'autres défis humanitaires à relever.
Humanitaire. Humanitaire pour une bonne visibilité des actions d'aide et de protection des populations en Côte d'Ivoire sur Radio de la Paix. Présentation, Sonia Nziang.